Et c'est le journal de Marc Fauvel. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un fantôme, des valises de billets et un président en garde à vue, Nicolas Sarkozy, retourne à Nanterre ce matin après une petite pause cette nuit dans son audition. C'est l'affaire du possible financement de sa campagne par la Libye de Kadhafi en 2007. France Inter a pu se procurer le rapport des policiers anticorruption. Détail à découvrir dans un instant. Et à 8h20, la réaction de votre invité, Nicolas.
La vice-présidente du Parti Les Républicains, Virginie Calmel, s'invitait du grand entretien du 7-9 d'un Amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
Veillée d'armes chez les syndicats qui ont déjà fait leur compte avant la grande journée de manifestation demain. Comptez environ un quart des enseignants du primaire en grève. À la SNCF, les chiffres viennent de tomber. 40% des TGV seulement en circulation. Un TER sur 4. Michael Thébault nous en donnera le détail de ses prévisions dans quelques instants. Dans ce journal également, l'histoire à peine croyable d'une femme handicapée bloquée chez elle depuis 3 mois pour cause d'ascenseur en panne. La loi contre les violences sexuelles et sexistes qui arrive aujourd'hui au Conseil des ministres. Et puis la Coupe du Monde de foot, le trophée en tout cas, qui revient en France. Séquence nostalgie à la fin de ce journal. Visiblement, les enquêteurs lui ont fait une petite fleur ou en tout cas lui ont évité l'affront d'une nuit en garde à vue. Nicolas Sarkozy est donc de retour ce matin à Nanterre, 24 heures exactement après le début de son audition dans les locaux de la police judiciaire. Cette nuit, il a donc été autorisé à rentrer chez lui pour quelques heures, mais les choses sérieuses reprennent dans quelques instants, car l'ancien président doit répondre d'accusations très graves sur un possible financement par la Libye de sa campagne de 2007. Des millions d'euros en liquide qui, d'après plusieurs témoins, auraient été offert par Muammar Kadhafi, le chef de l'État libyen, que Nicolas Sarkozy allait contribuer à renverser 4 ans plus tard. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Vous suivez cette affaire depuis des années et vous avez pu vous procurer le rapport que les policiers anticorruption ont remis aux magistrats. Rapport qui est sans doute, peut-être en tout cas à l'origine de ce coup d'accélérateur. Il décrit l'argent en liquide qui circulait autour du candidat.
Oui, cette partie de l'enquête a été relancée par Jérôme Lavrieux, qu'on connaît surtout pour l'affaire Big Malion. Il s'est souvenu justement qu'après la campagne de 2012, il avait été alerté d'un risque de mouvement social à l'UMP parce que beaucoup de salariés n'avaient pas touché de primes en liquide comme en 2007. Les enquêteurs ont donc interrogé des membres de l'équipe de campagne de 2007 qui ont confirmé ces primes de fin de campagne. C'était le défilé dans le bureau du trésorier, a raconté une ancienne salariée. Tout le monde venait chercher son enveloppe, je cite. Il a tiré cette enveloppe d'un coffre-fort qui contenait de nombreuses autres enveloppes, plusieurs centaines. Le trésorier Vincent Talvas et Eric Woerth, le président de l'association de financement, ont expliqué, eux, qu'ils avaient mis en place un système de remboursement de frais alimenté par des dons en liquide. Une version contredite par d'autres pour qui les militants de l'UMP ne faisaient pas de dons en grosses coupures. Des sommes qui, de toute façon, n'ont pas été intégrées dans les comptes de campagne.
Et cette enquête, Sarah, elle a également permis d'étayer les premiers soupçons sur un possible financement libyen, donc.
Oui, étayé par des témoignages d'anciens proches du dictateur défunt Muammar Kadhafi, comme celui d'Abdallah Senoussi, l'ancien patron du renseignement devant la Cour pénale internationale. Le versement de fonds à Nicolas Sarkozy est aussi évoqué dans le journal intime de Choukri Ghanem, l'ancien ministre retrouvé mort dans le Danube. Enfin, il y a les mallettes de Ziad Takieddine. L'intermédiaire dit avoir apporté 3 valises de billets jusque dans le bureau du ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, qui dément. Pourtant, on en revient aux espèces. L'enquête a établi que Claude Guéant manipulait beaucoup d'argent liquide. Il a d'abord affirmé qu'il s'agissait des primes de police pour lesquelles il a déjà été condamné, mais pour les enquêteurs, le compte n'y est pas. Et pendant la campagne de 2007, Claude Guéant avait loué un vaste coffre, une chambre à l'agence Opéra de la BNP pour mettre des archives de Nicolas Sarkozy, a-t-il déclaré.
Merci Sarah Guibaudeau. Confirmation à l'instant que la garde à vue de Nicolas Sarkozy reprend donc ce matin. Elle peut théoriquement durer 48 heures cette nuit. C'est son ancien lieutenant Brice Hortefeux qui témoignait lui en audition libre qui a pu quitter Nanterre un peu avant minuit, avant de publier un communiqué dans la foulée. Les précisions doivent permettre de clore, écrit-il, une succession d'erreurs et de mensonges. 2 autres réactions, celle du patron des Républicains Laurent Wauquiez qui juge humiliante et inutile cette garde à vue, et puis celle de Ségolène Royal qui avait perdu en 2007 au second tour face à Nicolas Sarkozy. Des millions de citoyens ont le droit de savoir si le match était à armes égales, dit l'ex-candidate. On en reparlera donc avec la numéro 2 des Républicains, Virginie Calmels, qui sera votre invitée dans un petit quart d'heure maintenant.
Mais Nicolas. Oui, il est 8h20. 8h05, combien seront-ils, Marc, combien demain dans les cortèges?
Enseignants, cheminots, personnel des hôpitaux, la rue fera-t-elle trembler l'Élysée pour cette première grande journée de mobilisation de l'année? Dans l'éducation, les syndicats ont fait leur compte, au moins 25% de grévistes à attendre demain, en maternelle et en primaire, sans doute un peu moins au collège et au lycée. Et pour les parents, toujours et encore la même question, qui va garder les enfants? Reportage à Paris, dans le 19e arrondissement de la capitale, Charlotte Jousserand.
Au croisement de la rue Lampale et de la rue du Général Lassalle, quatre écoles sans garderie ni cantine ou complètement fermées demain.
Ça sera fermé ?
Des affiches rouges sur les portes à l'attention des parents, comme Jamila qui s'approche.
Les cantinières, la garderie et les interclasses. Il faut s'organiser et je vais faire une journée de télétravail. On est obligé, ça reste gérable.
Gérable avec son employeur, avec les grands-parents. Marie met sa mère à contribution.
Ma mère prend mon fils et il dort chez elle. Elle me le ramène au milieu de la journée, comme ça moi je peux travailler le matin.
Pour avoir le temps de s'organiser, cela fait déjà une semaine que les parents ont lu le mot dans le carnet. Charlotte, qui cherche du travail en ce moment, risque de dépanner les autres mamans de l'école.
C'est possible que j'en récupère d'autres, oui. Ça dépend des emplois du temps des uns et des autres, mais quand on est prévenu très à l'avance, ça permet de s'organiser.
Steve, lui, pose sa journée pour son fils.
Ça m'embête un peu, parce que ça me coûte une journée. Mais quand même, je soutiens les enseignants, parce qu'il y a tous les moyens qu'il y avait avant.
Et c'est pour dénoncer ce manque de moyens qu'enseignants et animateurs seront tous en grève un peu plus haut, à l'école maternelle du Général Lassalle, son directeur Philippe Guèze.
Dès qu'il y a plus de 25% d'enseignants en grève, la municipalité doit organiser un service minimum d'accueil. Mais pour qu'elle puisse l'organiser, encore faut-il qu'elle ait elle-même des personnels disponibles pour le faire.
Et comme cet appel à la grève concerne la fonction publique en général, ce service minimum ne sera pas assuré dans cette école.
Voilà pour l'éducation et à la SNCF maintenant. Eh bien, on connaît depuis quelques minutes les prévisions de trafic. Bonjour Mickaël Thébault.
Bonjour Marc.
En résumé, ça va être compliqué demain de se déplacer sur les rails.
Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a effectivement livré sans mauvais jeu de mots les grandes lignes de ses prévisions de circulation pour demain. Résultat, attendez-vous à 25% des trains intercités seulement, 30% des trains en Ile-de-France, 40% pour ce qui concerne les TGV et enfin 50% pour les TER. Les prévisions affinées, complètes, ne seront rendues publiques à 11h30 ce matin. Mais vous l'avez compris, ce sera effectivement très compliqué car 6 TGV sur 10 qui restent à quai, la moitié des TER seulement en circulation, c'est ce qu'on peut appeler, Marc, une grève dure, même très dure. Alors maintenant, il vous reste encore l'application SNCF pour tenter de vous organiser. Par exemple, si vous n'avez pas encore acheté votre billet pour demain, vous pouvez rentrer votre itinéraire dans l'appli. Seuls les trains qui sont sûrs de rouler seront disponibles à la vente. Les autres sont affichés avec la mention supprimée ou complet. La SNCF pourrait également remettre à la vente des billets en fin d'après-midi demain. Et si vous aviez fait une réservation en amont, et bien dans ce cas, vous avez dû, en principe, si ça marche, et ça on n'est jamais sûr, vous avez dû recevoir un mail ou un SMS, un texto qui vous informe du maintien ou pas de votre voyage. Et si ce n'est pas le cas, et bien vous pouvez rentrer la référence complète de votre train sur le site internet de la SNCF. Vous aurez en principe, là encore, l'information et puis un numéro gratuit qui sera certainement très demandé, le 0805 90 36 35.
Merci Mickaël Thébault pour ces informations complètes sur la SNCF. À la RATP, le trafic devrait être quasiment normal pour le métro, mais perturbé pour les RER, notamment sur la ligne D. La CGT annonce un trafic quasiment nul demain. Et puis à la veille de cette journée, pas question d'ouvrir un nouveau front social. Il n'y aura pas de suppression du quotient familial, promet le gouvernement. L'idée a été portée par un député de la majorité dans un rapport qu'il devait remettre aujourd'hui et qui a finalement été envoyé aux oubliettes.
Il est 8h09, elle a 70 ans, elle vit en fauteuil roulant et depuis 3 mois, elle ne peut plus sortir de chez elle.
Ça se passe près de Toulouse, à Bozelle précisément, où depuis Noël, les 10 ascenseurs d'une résidence sont tombés en panne suite à des intempéries. Depuis, rien. Bataille d'experts, de syndics, d'assureurs, alors que les habitants, eux, n'en peuvent plus. C'est le cas notamment de Marie-Josette, atteinte d'une forme de sclérose en plaques. Pas d'ascenseur, ça veut dire pas de sortie. Et cela fait 3 mois qu'elle ne peut plus mettre le nez dehors. Bénédicte Dupont est allée par l'escalier à sa rencontre.
Polyhandicapée, certes, mais avec son fauteuil roulant, Marie-Josette pouvait jusque-là faire sa vie à l'extérieur.
Je prends le tram, je faisais quelques cours, j'allais au centre Claire. Là, c'est terminé, je peux plus. Je suis à nouveau très fatiguée. J'en peux plus, moi. C'est un impact sur ma santé, déjà pas brillant.
3 mois qu'elle n'est pas descendue de chez elle, elle doit payer un service de portage de repas à domicile. Sa voisine, Jocelyne, promène parfois son chien. Très en colère, elle a carrément écrit à la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées.
C'est comme une punition. Elle n'est pas en prison pourtant.
Elle est chez elle, elle a son domicile, elle paie un loyer, elle paie des charges. Normalement, l'usage de l'ascenseur, ça fait partie des charges que l'on paie.
695 euros de loyer, charges comprises, ni l'agence ni le syndic n'ont voulu faire un geste. Le frère de Marie-Josette, Jean-Noël, l'a incité à porter plainte.
Il y a eu des pannes d'ascenseur, ça a duré 24 heures, et ils venaient tout de suite réparer. Mais là, ça traîne en longueur. Ils nous ont dit que la première fois que le personnel était en vacances, ils se renvoyaient la balle entre le syndic, les propriétaires et le gestionnaire, et ça n'avance pas.
Square Habitat, le syndic, promet qu'il va déclencher exceptionnellement les travaux malgré le blocage des assurances. L'ascenseur du bâtiment F devrait être réparé d'ici la fin de semaine, espère-t-il.
Reportage Bénédicte Dupont de France Bleu Toulouse. Une course-poursuite des tirs de Kalachnikov et un jeune homme de 20 ans entre la vie et la mort ce matin à Marseille, victime d'un probable règlement de compte. C'était hier après-midi dans les quartiers nord. La victime a été retrouvée gisante à quelques pas du commissariat du 13e arrondissement. À Nice, le maire Christian Estrosi en avait fait sa nouvelle arme contre l'insécurité. Une application qui permettait d'appeler la police en vidéo pour lui signaler une infraction en direct. Mais la CNIL vient de lui dire non. La Commission Informatique et Liberté retoque le projet qui était expérimenté depuis un mois. Réaction outrée de Christian Estrosi. Ce sont les terroristes qui vont profiter de cette décision. Après les bonnes intentions, la loi, le Conseil des ministres examine ce matin le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, que ce soit dans la rue, avec la création d'un nouvel outrage sexiste qui sera puni d'une amende, mais aussi sur Internet et devant les tribunaux. Le détail avec Charlotte Piret.
C'est la mesure la plus médiatique de ce projet de loi, celle qui consiste à inscrire un âge, en l'occurrence 15 ans, en dessous duquel on estime qu'un mineur ne peut avoir de relations sexuelles en libre conscience et donc que tout acte de pénétration sexuelle avec un majeur constitue un viol dès lors que l'auteur ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Mais si ce volet du texte fait autant débat, c'est que l'automaticité des poursuites qu'il prévoit peut poser problème. Dans le cas par exemple d'une relation amoureuse entre deux adolescents de 14 et 17 ans, celle-ci serait tout à fait légale jusqu'à la majorité du plus âgé, qui serait alors passible de la cour d'assises et de 20 ans de prison. Les autres mesures de ce texte sont plus consensuelles. L'allongement du délai de prescription des crimes sexuels à l'encontre des mineurs, il est aujourd'hui de 20 ans, il passera à 30 et permettra à un enfant victime de viol de porter plainte jusqu'à ses 48 ans. La création également de l'infraction d'outrage sexiste sur le harcèlement de rue, punissable d'une amende de 90 à 750 euros, ou encore le durcissement des condamnations pour cyberharcèlement.
En bref, fin de partie pour Vivendi. Après 2 ans de bras de fer, le groupe de Vincent Bolloré renonce à prendre le contrôle du spécialiste français du jeu vidéo Ubisoft. Vous savez, c'est de là que sont sortis les lapins crétins notamment. Il va revendre toutes ses parts avec au passage une jolie plus-value de plus d'1 milliard d'euros.
8h13, il ne se fait pas beaucoup d'amis ces jours-ci.
Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, continue de garder le silence face aux scandales et aux révélations sur les fuites géantes au sein du réseau social. Cette nuit, c'est l'un des porte-parole du groupe qui s'est exprimé. Il se dit scandalisé et affirme que le réseau est victime dans cette affaire. En clair, toute la responsabilité en reviendrait à l'entreprise Cambridge Analytica qui a acquis ces données pour ensuite aider la campagne de Donald Trump. Quant au patron de cette société, il a été débarqué, lui, hier soir par son conseil d'administration. Mais voici ce qu'il confiait en caméra cachée dans un documentaire diffusé hier soir à la télévision britannique. À l'entendre, il n'est pas sûr que son entreprise coopère vraiment avec la justice.
Avez-vous rencontré Monsieur Trump ?
Plusieurs fois. On a fait toutes les enquêtes, les données, les analyses, les profilages. On a dirigé toute la campagne digitale, la campagne télévisée. Et les données qu'on a fournies ont influencé toute la stratégie. Et je suis convaincu que les autorités américaines ne sont pas compétentes pour enquêter là-dessus.
Alors si les autorités américaines vous demandent si vous avez travaillé pour eux, vous direz non, on ne connaît pas ces gens ?
On répondra, ça ne vous regarde pas, ce n'est pas vos affaires.
Extrait d'un reportage diffusé sur Channel 4 hier soir, traduction signée Grégory Phillips. Plusieurs enquêtes, justement, sont déjà ouvertes aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le mystère demeure au Texas. La police enquête sur de mystérieux colis piégés. Deux pour la seule journée d'hier. Le premier a blessé une employée du groupe FedEx qui tentait de le manipuler. Le second a été intercepté à Austin et a pu être désamorcé à temps. En un mois, ce sont 6 colis au total qui ont été envoyés et qui ont fait déjà 2 morts.
Et enfin, elle est de retour en France pour quelques jours.
Et 1 et 2 et 3-0, le trophée de la Coupe du Monde de foot fait un détour en France. Il était hier à Paris, il sera à Reims aujourd'hui, exposé au public. Alors forcément, revoir cette coupe remportée par les Bleus il y a 20 ans en 98, ça réveille quelques souvenirs. Xavier Monferrand.
Tout y est, la voix de Gloria Gaynor, la Marseillaise, les maillots des joueurs français, même le tableau d'Aimé Jacquet avec le programme de ce fameux 12 juillet 98. Et 1, et 2, et 3-0, et bien sûr, le trophée de la Coupe du Monde. Que de souvenirs pour Emmanuel. Il était au Stade de France avec son père pour la finale contre le Brésil.
On a vécu un moment extraordinaire et une émotion très très rare et très forte. Il y a des choses qui remontent, ouais. Il y a des petites larmiches qui sont venues pointer un petit peu là, et quand j'ai vu le billet à l'entrée, là, bah, c'est magnifique.
Pour certains, le sacre des Bleus, c'est de l'histoire ancienne. Jacques n'a rien connu de tout ça, il est né en 99, un an après la Coupe du Monde, mais l'émotion est là.
C'est comme si on y était en fait, ça donne des frissons. On dirait que j'ai été présent, mais je n'étais même pas encore né en fait. Quand les gens m'en parlent, je comprends que c'était quelque chose de spécial en fait. C'est pas n'importe quelle équipe, c'était l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde.
Dans cette équipe championne du monde, il y avait Marcel Desailly, le défenseur central était présent au Forum des Halles pour le retour de la Coupe du Monde en France et pour passer le témoin.
C'est vrai que ça passe à travers le temps. On a des jeunes de 15, de 20 qui continuent de nous parler de ce moment fort parce qu'ils ont suivi les réseaux sociaux et que c'est une très bonne chose.
Et après Paris, la Coupe du Monde prend la direction de Reims aujourd'hui, puis l'Allemagne et Cologne. Au total, 51 pays parcourus avant l'arrivée du trophée en Russie le 1er mai.
Xavier Monferrand avec Théo Dorangeon pour la revoir vite. Il suffira de la gagner en juin prochain, c'est pas compliqué.
Merci Marc Fauvel.